Eh bien, bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion, car à chacune de mes interventions, je mesure le privilège, l'honneur et la responsabilité que le Seigneur m'accorde de parler en son nom. Voilà maintenant 2 années que nous sommes en Guyane et que je parle en son nom. Mais avant de partager avec vous la parole de Dieu, je souhaite vous dire quelques mots sur ce que nous vivons actuellement en Guyane. Tout d'abord, comme le temps passe vite, n'est-ce pas? Voilà bientôt 2 ans que nous vous avons quitté, Monique et moi-même, pour aller travailler dans ce département français d'outre-mer. La Guyane est un très beau département, au climat difficile, certes, mais nous y apprécions surtout la gentillesse de ses habitants, aux origines très variées, ainsi que la beauté de la faune et de la flore. Mais au-delà de tout ça, ce que nous aimons en tout premier, c'est la vie de l'Église, la vie de l'Église que le Seigneur nous permet de vivre là-bas. Nous sommes membres de l'Église évangélique baptiste de Cayenne, quartier de Cabassou, d'environ à peu près 150 personnes. Maintenant très bien intégrés dans cette communauté, Monique et moi-même servons le Seigneur de notre mieux, avec sa grâce et surtout de tout notre cœur. Je vous transmets d'ailleurs les plus fraternelles salutations de tous les frères et sœurs de notre communauté que certains ont pu voir sur la vidéo que j'ai amenée, église dirigée d'ailleurs avec beaucoup de zèle par le pasteur Pierre Laurolle. Nous sommes en vacances quelques semaines, puisque pour ma part, je repars en Guyane le 13 juin pour ma dernière année. Et cela, bien entendu, nous fait beaucoup de bien de revoir nos parents, de revoir nos enfants, mais aussi toute notre famille chrétienne, parce que vous êtes également de ma famille. Extraordinaire, extraordinaire et belle famille chrétienne. Partout où nous sommes allés, au cours de ces dernières années, de l'Ukraine en passant par la Martinique et la Guyane maintenant, le Seigneur nous a permis de rencontrer des frères et des sœurs aux cultures, certes différentes, mais combien nous ressentons tout l'amour de notre Seigneur en leur compagnie. C'est une bénédiction extraordinaire que de partager et vivre cet amour de Dieu dans une communion fraternelle, n'est-ce pas, que le monde ne peut comprendre. Mais ce qu'il y a de merveilleux en revenant dans l'Assemblée de Toulon après quelques années, c'est de voir non seulement de nouveaux visages, mais également de se rendre compte combien les enfants changent et grandissent. Nous les revoyons quelques années plus tard, adolescents, adultes, voire même pères de famille pour certains, et de prendre en leur nom, n'est-ce pas, un petit coup de vieux. Nous aimons dire les uns et les autres que cette jeunesse est la relève de l'Église de demain. Et nous bénissons le Seigneur de voir certains jeunes prendre d'ailleurs des responsabilités dans la communauté. Mais cette jeunesse, qui représente une richesse extraordinaire pour l'Église, cette relève n'est pas à l'abri de certains dangers qui la guettent. Nous devons en être conscients, veiller sur elle et surtout prier pour elle. Veiller et prier pour nos enfants, veiller et prier pour nos petits-enfants, cela paraît évident pour chacun de nous et personne ici ce matin ne me dira le contraire. Et pourtant, la question est là posée pour chacun de nous. Sommes-nous toujours conscients des dangers et des menaces qui nous guettent, ainsi que nos enfants qui préparent donc cette relève de l'Église de Toulon demain? Mais quel danger courons-nous, me direz-vous? Par la grâce de Dieu, je vais tenter de répondre à cette question en regardant avec vous l'histoire d'un jeune qui est dans une église, au culte, un dimanche, exactement comme là ce matin. Il vous suffira tout simplement d'imaginer que la scène que nous allons voir ensemble va se passer à l'étage. Ce jeune et son Église vont alors vivre des moments très forts, vont alors vivre des moments tout à fait extraordinaires. Que celui ou celle qui a des oreilles entende. Alors, ouvrez grandes vos oreilles pour comprendre ce qui va arriver. Soyez attentifs les uns et les autres ce matin à la parole de Dieu. Comme toute la Bible, ce passage que nous allons voir ce matin et qui s'est déroulé en 59 avant Jésus-Christ est à mon sens toujours d'une actualité criante. Il est pour vous les jeunes qui m'écoutez, cette relève de l'Église de Toulon, mais aussi pour chacun d'entre nous, car il y a de sévères recommandations qui nous sont destinées. Sans plus attendre, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes, au chapitre 20. Livre des Actes, au chapitre 20, les versets 7 à 12. Chapitre 20, livre des Actes, versets 7 à 12. Pour lire ce qui est arrivé à ce jeune qui se nomme Eutychus. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Il me paraît d'abord utile de dire deux mots sur le contexte de ce passage. Vous connaissez tous l'apôtre Paul, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. Évangéliste, pasteur, docteur. L'apôtre Paul a eu un ministère particulièrement actif. Par son travail et ses déplacements incessants, il parcourt des milliers de kilomètres au cours de ses trois voyages missionnaires et arrive donc dans la ville de Troie, qui est la Turquie actuelle d'ailleurs, où la parole de Dieu nous dit qu'il y resta 7 jours. Ainsi, ce matin, nous allons assister au dernier culte de Paul dans l'assemblée de Tite. Vous remarquerez donc à la lecture de ces versets que le culte ressemble beaucoup au nôtre, sauf qu'il est célébré le soir au lieu du matin. Mais avant d'aller plus loin, je me pose alors cette question à vous tous qui me regardez. Y aurait-il, ou y a-t-il alors un Eutychus ce matin dans cette salle? Je m'explique. Vous êtes venu au culte. Vous êtes physiquement présent, assis sur votre chaise, au premier rang ou au dernier, mais vous vous sentez fatigué. Je ne veux pas parler de fatigue physique. Celle-là, nous la connaissons tous et toutes. Personne n'est épargné par cette fatigue. Que l'on soit jeune ou âgé, tout le monde peut être fatigué physiquement. Non, ce matin, je voudrais vous parler d'une autre fatigue dont souffre Eutychus, c'est la fatigue spirituelle. Oh, mais peut-être allez-vous dire, mais là, Charles, ce que tu dis, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, l'Écriture est là dans 1 Corinthiens 10 et verset 12 et nous avertit en nous disant ceci. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais au fait, Mais au fait, pensez-vous souffrir, vous aussi, de cette fatigue spirituelle ? Je peux tout simplement ce matin vous aider à répondre à cette question en vous donnant tout simplement quelques indices ou symptômes de cette grave maladie. Vous essayez depuis des mois et même depuis des années de mener une vie de prière fervente. Vous essayez de lire la Bible fidèlement. Vous avez même pris des résolutions et fait des promesses devant le Seigneur, mais non, vous n'y arrivez jamais. Non, décidément, pardonne-moi Seigneur, mais je n'ai pas assez de temps à te consacrer, j'ai autre chose à faire. Et puis tu sais Seigneur, on verra ça demain, je te le promets. Et le lendemain alors ressemble invariablement au jour de la veille. Pas le temps de prier, pas le temps de lire la Bible, seul ou avec mes enfants ou en famille. Par contre, là oui, j'ai du temps pour regarder mes émissions favorites à la télévision, pour regarder mon journal télévisé, pour regarder mes matchs de foot. Il se peut même que mon travail passe avant toutes les priorités. Mais alors, Dieu, quelle priorité a-t-il ? Vous luttez depuis des années contre un péché. Vous l'avez confessé même, pourquoi pas, des centaines de fois. Vous avez souvent promis à Dieu, à vous-même et peut-être à quelqu'un de votre entourage de ne plus jamais connaître ce péché qui vous ronge, ce péché qui vous mine, qui vous détruit votre relation personnelle avec Dieu. Et à chaque fois, inlassablement, vous retombez, à chaque fois, vous chutez. Vous essayez de témoigner de votre foi, mais vous avez peur, vous êtes trop timide, même parfois vous avez un sentiment de honte et vous ne le faites pas. Vous venez au culte, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois, et pourquoi pas des années, que sais-je, mais sans envie, sans entrain, sans enthousiasme particulier. C'est plutôt par habitude ou par obligation que vous venez, vous demandant même parfois ce que vous faites ici, en n'ayant qu'une seule idée en tête, c'est de partir au plus vite. Ce matin, comme Eutychus autrefois, vous êtes en train d'écouter ce message, mais spirituellement, vous sommeillez. Votre attention est ailleurs. Ah oui, votre corps est bien là, mais pas votre tête, ni votre esprit. Peut-être êtes-vous bien trop préoccupé par les choses du monde. Argent, travail. Les paroles de ce message s'envolent, tout comme celles des messages précédents et comme des messages à venir. Pour reprendre une expression que les jeunes aiment dire peut-être, eh bien peut-être que votre cerveau n'imprime pas, ou alors n'imprime plus. Alors, si vous souffrez d'un ou plusieurs de ces symptômes, eh bien moi je vous le dis, quelque chose ne tourne pas rond spirituellement. Mais alors pourquoi ? Parce que n'est-ce pas la question est la posée. Pourquoi ? Parce que l'une des ruses les plus habiles de celui qui se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11 et verset 14, est de fatiguer et d'épuiser les enfants de Dieu. Vous voyez de qui je veux parler. La fatigue spirituelle est d'ailleurs une ruse bien plus sournoise que ses attaques et ses confrontations directes. En effet, quand Satan nous attaque directement, violemment, nous le démasquons et le reconnaissons alors tout de suite, et nous luttons et résistons pour le combattre. Et nous savons comment le combattre. Nous en avons les armes les uns et les autres. C'est tout simplement par la lecture régulière de la parole de Dieu et par la prière. Voilà les deux armes principales. Mais quand le malin nous fatigue, quand le malin nous use et nous épuise petit à petit, nous ne nous apercevons de rien. Nous ne voyons pas le danger qui nous guette et nous sommeillons. Oui, nous sommeillons jusqu'à ce que nous endormions profondément. On peut s'endormir spirituellement sans même s'en rendre compte. Le malin prend le temps qu'il faut pour nous faire chuter, soyez-en persuadés les uns et les autres. Il fait alors un peu comme la vague, vous connaissez tous ce mouvement, il fait alors un peu comme la vague qui vient frapper le rocher et qui inlassablement va le transformer, va le déformer tout doucement pour arriver à le faire chuter dans la mer. La fatigue spirituelle commence en effet en passant inaperçue. Je vais vous en donner juste encore là quelques signes de cette fatigue spirituelle. Un jour sans prier, un autre sans lire la Bible, un autre en manquant juste, entre guillemets, une réunion de prière ou une étude biblique, en se trouvant, pourquoi pas, une bonne excuse à partager avec les autres, histoire de se donner à leur bonne conscience. Oh, un autre en cédant à un péché. Une petite fois seulement, mais très rapidement, une petite fois va devenir deux fois, trois fois, quatre fois, et ainsi de suite. Et pourtant, la parole de Dieu est formelle sur ce point. Éphésiens 4 et verset 27, il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Cela me fait penser alors à cette image que vous connaissez tous. Donnez-lui seulement le bout de votre ongle, il vous mangera le doigt, puis ensuite il vous mangera la main, et enfin il vous mangera le bras tout entier. Doucement, tout doucement. Inexorablement, Satan tend son piège comme l'araignée tend sa proie, tend lui que la Bible qualifie de meurtrier, menteur, démon, voleur, accusateur, serpent ancien, Apocalypse 12 et verset 9, lui qui se promène sur la terre. Vous connaissez la réponse que Satan fait à l'Éternel quand il lui demande « Mais d'où viens-tu ? » Et Satan de répondre dans Job 1 et verset 7 « D'où je viens ? Je viens de courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Oui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5 et verset 8. Notre jeune frère Eutychus s'est endormi. Il n'entend plus prêcher Paul. Il ne chante plus. Il ne prie plus. D'ailleurs, il ne participe même plus à la vie de l'Église. Oh ben, il est là, physiquement présent, mais sans aucune activité. Il remplit une chaise, une place. Mais c'est tout et rien d'autre. Laissons un moment Eutychus en train de dormir pour observer les autres membres de l'assemblée. Alors eux, par contre, ils sont bien réveillés. Ils ne dorment pas. Ils écoutent la prédication de l'apôtre Paul tellement bien et si attentivement qu'ils ne remarquent même pas que le frère Eutychus est là, assis sur une chaise au bord de la fenêtre et en danger de mort. Ou alors, peut-être, le remarque-t-il, mais ils se disent, après tout, ce n'est pas grave. Ils ne se rendent même pas compte du danger de mort que court ce jeune en équilibre au bord de la fenêtre, là, au troisième étage. Alors, et nous, est-ce que nous remarquons toujours le danger qui guette un de nos jeunes, un de nos frères ou une de nos sœurs qui tombe dans un sommeil spirituel? Est-ce que nous aussi nous pensons que ce n'est pas grave? Est-ce que nous aussi nous allons penser alors qu'il se réveillera bien tout seul? Mieux, Mieux que cela, allons-nous répondre comme Caïn à la question que lui pose l'Éternel dans Genèse 4 et verset 9. Il lui dit « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne une lourde responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Il est dit des 3000 convertis qui furent baptisés le jour de la Pentecôte et qui augmentèrent le nombre des disciples. Dans Actes 2 et verset 42, vous connaissez tous ce passage qui est un passage majeur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous noterez qu'il s'introduit ici un quelque chose de nouveau, un quelque chose qui va modifier, un quelque chose qui va bouleverser le mode de vie de tous les chrétiens encore aujourd'hui. En effet, ce n'est ni enseigner, ni prier, ni la fraction du pain, était quelque chose de bien nouveau. Cela se pratiquait déjà. Cet élément nouveau qui est rentré maintenant, c'est quelque chose de plus fort, c'est la communion fraternelle. En effet, du moment où Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a enlevé toute barrière de race, d'âge, de langue ou de couleur que le péché avait dressée entre les hommes, la vraie communion fraternelle, illustrée par la relation entre Dieu et Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la vraie communion fraternelle est redevenue alors possible. Dieu emploie cette même expression, communion, à plusieurs reprises dans la Bible pour décrire sa relation intime avec nous, comme par exemple dans ce passage que vous connaissez de 1 Jean 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À mon sens, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, la communion fraternelle est l'un des 4 piliers fondamentaux de la religion chrétienne, avec la prière, la fraction du pain et l'enseignement. Alors que cet après-midi, l'Église se prépare à prendre des décisions importantes d'après ce que je sais sur son avenir. Il est indispensable, à mon avis, il est indispensable que celle-ci repose sur ces 4 piliers. Au chapitre 1 du livre des Actes, verset 14, il est mentionné que les disciples se réunissent d'un commun accord. Cette expression « commun accord » est présente 11 fois dans le livre des Actes. Elle constitue, à mon sens, une des clés de la bénédiction de Dieu. Là où des frères demeurent ensemble dans l'unité, Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Promesse que vous pouvez lire dans le livre des psaumes, dans le psaume 133 et au verset 1. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable de voir des frères et de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Aussi, fort de cet enseignement, les frères et les sœurs de l'Assemblée de Troyes, qui écoutaient les paroles de l'apôtre Paul si attentivement, auraient dû remarquer que frère Eutychus dormait. En lisant ce passage, je ne sais pas vous, mais moi, en tous les cas, je vous le dis, j'ai été choqué, j'ai même été bouleversé par cela. Un jeune est assis là, au bord d'une fenêtre, au 3e étage, profondément endormi, nous dit la parole de Dieu, et personne ne va bouger dans l'église, pas même un geste, pas même un regard. Mais lorsqu'on y réfléchit, n'est-ce pas? Mais ça paraît complètement insensé, cette situation. Parce que c'est tout simplement biblique. Le verset 5 de Romains 12 l'affirme. Oui, nous formons un seul corps en Christ. l'Éternel, pardon, l'Écriture. L'Écriture est formelle sur ce point. 1 Corinthiens 12 et verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si nous comprenons vraiment ce que communion fraternelle veut dire, nous ne pourrons jamais permettre que dans une église, dans notre église, qu'un uticus s'endorme spirituellement sans essayer de l'en empêcher. Si nous comprenons les uns et les autres la valeur fondamentale de la communion fraternelle, nous ne pourrons jamais manquer une occasion d'y participer sans raison valable. Non, nous ne pourrons jamais volontairement nous absenter du culte, histoire d'aller prendre l'air 5 ou 10 minutes, manquer une réunion de prière ou une étude biblique. Si nous comprenons, si nous saisissons le bonheur de la communion fraternelle, nous rechercherons les uns et les autres le plus possible à partager notre vie avec nos frères et avec nos sœurs en Christ. Non seulement dans l'Église d'ailleurs, mais en tout ce que nous faisons, à partager avec eux nos joies, nos chagrins, nos peines, nos victoires, mais aussi nos défaites. À nous exhorter les uns les autres, à prier les uns avec les autres, à prier les uns pour les autres, à nous encourager mutuellement. Et pourtant, tout ça semble évident, n'est-ce pas? Et pourtant, les relations entre les chrétiens ressemblent trop souvent à celles que nous voyons dans le monde. Des relations faites de clans, égoïstes, superficielles, manquant de sincérité. De relations faites de reproches, de critiques, de jalousie, d'hypocrisie, d'indifférence. Et que sais-je encore? Relisez Colossiens 3 et verset 12. Et je vous le dis ce matin, moi qui suis devant vous tous, mon cœur pleure, lorsque je vois que des chrétiens se croisent sans même se regarder ou se saluer. Qui de plus est dans une église? On ne se connaît pas, alors on ne se salue pas. Oui, mon cœur pleure. Relisez 1 Pierre 5 et verset 14. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des frères et des sœurs quitter leur assemblée à cause de tout cela, fatigués, découragés, déçus par toutes ces attitudes du monde. Oui, je vous le dis, chers frères et sœurs, ce matin, tenons, frères Uticus, ensemble, bien à l'œil. Suivre et servir Jésus-Christ est chaque jour un engagement sérieux, et nous le savons. Nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, mais aussi nous nous engageons vis-à-vis de tous les Uticus. Nous devons veiller et nous devons nous occuper d'eux. Pour cela, nous devons passer du temps avec eux. Pour cela, nous devons leur parler, nous devons les écouter, nous devons les encourager, nous devons les réconforter, les aider, voire même, s'il le faut, les corriger. Mais nous ne pouvons pas les laisser s'endormir spirituellement sans rien faire. Alors, si nous remarquons qu'ils ne fréquentent plus les réunions et les activités de l'Église, ou s'ils sont présents physiquement mais absents spirituellement, le remède est tout simplement dans Hébreux 10 et verset 25. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement, mais ça veut presque dire tout le temps, n'est-ce pas? Est-ce que nous le faisons? Tiens, Uticus est en train de dormir. Eh bien, on va regarder un petit peu Uticus maintenant. Ah zut! Uticus n'est plus à sa place. La fenêtre est vide. Oh, il n'y est plus. Il ne s'assied plus sur le rebord de la fenêtre. Mais alors, Uticus, oui, il est tombé du 3e étage. Savez-vous ce qu'il y a de pire encore que de dormir dans l'église pendant le culte? Eh bien, c'est quoi? C'est de tomber de sa chaise. Il y a quelques instants encore, Uticus était physiquement présent, bien qu'il n'eût fût plus depuis longtemps spirituellement. Mais maintenant, le pauvre, il n'est même plus là. Pour autant, sommeiller dans l'Église, ce n'est pas seulement triste, c'est également très dangereux. Car le sommeil spirituel n'est jamais le but de Satan. Le sommeil spirituel n'en est qu'un moyen. Son but n'est pas seulement de nous bercer d'un sommeil léger, mais bien tout simplement de nous faire tomber, tout simplement de nous faire chuter. Le malin ne vise pas le sommeil spirituel. Non, il hausse un peu là, hein, la hausse de son fusil. Pourquoi ? Parce qu'il vise tout simplement la mort spirituelle. Le sommeil spirituel ne se présente jamais avec une étiquette repérée péché. Bien au contraire, le diable sournois envoie la tentation, envoie le découragement, voire même les épreuves sur les uns et les autres, en emballage cadeau, un beau cadeau dans lequel il y a des somnifères. Jeunes et moins jeunes, si vous entendez une voix au fond de votre oreille qui vous dit à peu près ceci, tu as besoin de dormir, dors. Mais non, n'écoute pas le message, va prendre l'air. Ne va pas aux réunions, ne participe pas aux études bibliques, ne va pas aux réunions de prière, mais tu y perds ton temps. Après tout, tu es jeune, tu as le droit au plaisir comme tous les jeunes de ton âge. Ne te prive pas de cela. Et puis, tu sais, tu n'es pas le seul à faire ça. Oui, si vous entendez ces voix ce matin, je vous le dis, il peut y avoir danger de mort. Le sommeil spirituel ressemble à une drogue qui tue peu à peu notre enthousiasme pour la prière, qui démolit notre intérêt pour la parole de Dieu, qui ruine notre amour fraternel pour nos frères et sœurs en Christ, qui brise nos relations fraternelles et détruit enfin notre engagement dans l'Église. Et comme toute drogue qui mène à la dépendance, le sommeil spirituel va se transformer en un coma dont jamais nous ne nous réveillerons. Eutychus est tombé du haut de son troisième étage et il en est mort. Mais alors que faire ? Faut-il l'enterrer ? Est-ce que ce dernier culte que Paul célèbre à Troyes va se transformer alors en des funérailles pour la communauté ? Maintenant, les membres de l'Église se troublent, nous précise le texte, mais il est bien trop tard. Ils culpabilisent probablement. Oui, comment on en est arrivé là ? Mais un jeune qui meurt dans ces conditions, ça doit être terrible pour une communauté. Mais on a envie de dire, n'est-ce pas, mais ils auraient mieux fait de se troubler plus tôt. Ça ne serait jamais arrivé, cette situation. Si au moins un frère, au moins une sœur s'était levée pour lui poser ne serait-ce que la main, oui, la main sur son épaule, il aurait pu réveiller Eutychus avant sa chute. Pauvre Eutychus, il ne priera plus, il ne chantera plus, il ne sera même plus assis à sa place. Mais voyons brièvement comment Paul va agir, car le temps passe, n'est-ce pas ? C'est vrai, je ne m'habitue pas à regarder les montres. Eh bien, tout d'abord, Paul interrompt son message et il descend dans la cour sans rien dire, suivi des frères et sœurs qui l'accompagnent. Ça, c'est pas Charles qui vous le dit, hein, c'est la parole de Dieu. Juste au passage, vous remarquerez que Paul ne juge pas, Paul ne blâme pas, ne critique pas, ne fait aucun reproche, ni à Eutychus, ni à l'Assemblée, aucune réflexion déplacée. Et pourtant, Paul, il aurait pu le faire, car il en avait l'autorité. Il ne dit pas pour autant, c'est dommage pour lui, j'ai encore beaucoup de choses à dire, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Il aurait pu dire aussi, laissez-le, non, laissez ce jeune, c'est de sa faute s'il est tombé du troisième étage. Après tout, oui, après tout, il n'avait qu'à pas dormir pendant que je prêchais. Eh bien non, non au contraire, Paul descend tout simplement vers lui. Se penchant sur Eutychus, il le prend dans ses bras, nous dit le texte, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui » au verset 10. Puis, il remonta à l'étage, il rompit le pain et mangea. Ainsi Paul va ramener ce jeune de la mort à la vie. En le relevant, Dieu rend témoignage à sa propre bonté et à la puissance dont il avait doué l'apôtre Paul. Ainsi le jeune Eutychus fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation, nous précise encore le texte ce matin. Eh bien, c'est là la première des leçons. Si nous voulons rétablir en Christ une sœur ou un frère qui est tombé, nous devons aller vers lui, nous devons l'accompagner et descendre jusqu'à l'endroit où il se trouve, là même où il est tombé. Paul prend Eutychus dans ses bras. Quel geste merveilleux, n'est-ce pas? Et nous, quand avons-nous pris pour la dernière fois quelqu'un dans nos bras? Non. Je ne pense pas à notre époux, à notre épouse, voire même à nos enfants. Non, je pense à un Eutychus, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui nous a déçus et quelqu'un qui même est à la recherche de son Dieu. Si nous sommes toujours réveillés, regardons les Eutychus, regardons les frères et sœurs endormis sur le bord de la fenêtre ou peut-être même déjà tombés. Parce que maintenant, oui, maintenant, nous savons les uns et les autres ce que nous avons à faire. Mais êtes-vous Eutychus ce matin, au fait? Vous sentez-vous fatigué? Vous sentez-vous épuisé? Vous sentez-vous découragé? Votre vie spirituelle est devenue une lutte. Votre enthousiasme est fané, vous êtes physiquement présent, là assis sur cette chaise, mais vous vous rendez compte alors que vous dormez spirituellement depuis des semaines, vous dormez spirituellement depuis des mois, vous dormez spirituellement depuis des années. Ce que je crois, c'est que le réveil spirituel commence par celui de toute la communauté et par moi le premier. Aussi, je vous le dis ce matin, non, ne restez pas sur le bord de la fenêtre, sur votre chaise. J'ai envie de dire à celui ou à celle qui dort spirituellement, peut-être depuis des années, comme l'a dit Paul aussi aux Romains, Romains 13 au verset 11, il te dit, c'est l'heure de te réveiller de ton sommeil, aujourd'hui, dimanche 1er juin. Mais également, dans Éphésiens 5 et verset 14, réveille-toi, toi qui dors, vous pouvez y mettre votre prénom si vous le sentez. Oui, réveille-toi, toi qui dors. Aussi, le réveil de ton cœur est réglé. Jésus lui-même t'invite ce matin à le faire sonner ce réveil et il te parle très fort en te disant, Matthieu 11 et verset 28, « Oui, viens à moi si tu es fatigué, si tu es chargé et je te donnerai du repos. » Oui, ce matin est encore un jour de grâce et vous pouvez répondre si vous le voulez à l'invitation de notre Seigneur Jésus. Venez jusqu'à lui si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'être encouragé, si vous avez besoin d'être fortifié dans votre vie spirituelle, si vous voulez grandir pour le Seigneur, si vous voulez lui demander pardon pour un péché qui vous mine depuis des années, si vous voulez repartir d'un bon pied avec Jésus, vous pouvez, et je vous le dis, venez ce matin vous mettre au pied de votre Sauveur. Oui, réveillez-vous pour voir la gloire de votre Seigneur et balayez définitivement vos fardeaux, balayez définitivement vos défaites. Et si vous le voulez, après le culte, venez, et la meilleure des choses, eh bien, c'est de quoi faire, c'est de prier ensemble. Venez, nous allons prier ensemble. Deux mots encore pour vous dire au revoir publiquement. Car si nous restons cet après-midi pour l'Assemblée Générale, et j'allais dire pour une fois avec Monique que nous ne voterons pas par procuration, nous serons avec nos amis Jacqueline et Louis la semaine prochaine à Brignoles. Et le dimanche suivant, si Dieu le veut, je serai de retour à Cayenne et je serai dans ma communauté. Aussi, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient sur chacun d'entre vous. Amen.